Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30.
Nous sommes à présent avec Atim Bekali, qui est fondateur de la société de services en logiciel libre Silhouet et qui est une société montpelliéraine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peux-tu déjà un petit peu présenter qui est Silhouet, comment ça s'est fondé, sur quelle idée, sur quel concept, et puis pourquoi avoir adopté aussi du logiciel libre comme fer de lance?
Initialement, en fait, j'ai monté une EURL, donc j'étais tout seul dans la structure. L'idée, c'était que je propose mes prestations de conseils et d'audits en logiciel libre aux entreprises qui sont intéressées. Tout bêtement, parce que quand j'ai quitté mon emploi en 2004, je n'ai pas trouvé de poste en fait très ciblé logiciel libre. Il n'y avait que des demandes en fait multiples au niveau système. Et moi, je voulais faire que du logiciel libre. Donc, j'ai monté la structure, pas du tout dans une envie de monter une boîte, avoir des salariés et développer en fait la structure. Au début, c'était juste pour faire mes prestations de conseil. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est posé la question, est-ce que je continue en fait solo à faire mon petit train-train de prestations de services, ou est-ce que j'augmente mon investissement dans le libre en développant la structure pour toujours fournir du libre, mais à une échelle plus importante. Et donc, à un moment, voilà, j'ai passé le cap en 2006, où j'ai donc recruté une première personne, puis petit à petit une deuxième personne, une troisième personne, tout en essayant de garder une cohérence dans l'évolution de la structure financièrement parlant, et surtout au niveau de l'état d'esprit, c'est-à-dire rester toujours indépendant, rester sur une petite structure qui se maîtrise, qui maîtrise ses coûts et qui garde cette liberté d'action et de liberté de fonctionnement en ne proposant que du logiciel libre à 99% des prestations.
Et là, vous êtes combien en 2012 ?
Aujourd'hui, on est 4 ingénieurs Linux. On a à peu près tous le même profil, c'est-à-dire des Bac plus 4, 5 et avec... on va dire en moyenne 5-6 ans d'expérience pour les plus jeunes et 12-13 ans d'expérience pour les plus anciens.
Alors, on se dit logiciel libre, gratuité, même si c'est pas tellement vrai, tout dépend de quel côté ou disons comment on l'aborde, mais comment faire une économie professionnelle avec du logiciel libre?
C'est une question que je me pose tout le temps. Pour être sincère avec vous, en fait, c'est vrai que c'est un peu l'une des difficultés de ce modèle, c'est que nous, ce qu'on vend, c'est du temps. C'est en fait, on vend de la prestation de service, donc du temps où on va apporter donc notre expertise dans on va dire deux types de prestations, tout ce qui est conseil et audit, c'est-à-dire que nous, on maîtrise un certain nombre de solutions. On s'accorde tous les mois par personne à faire un temps important de veille sur les nouvelles technologies, les nouvelles avancées. Et on s'accorde aussi à explorer le marché en termes de nouvelles orientations des systèmes d'information. Et on essaye donc de maîtriser des solutions qui vont dans ce sens en concurrence de solutions propriétaires existantes. Donc il y a un fort investissement en fait sur la valeur humaine, sur le développement on va dire de la maîtrise de ces technologies au niveau humain d'un côté, et de l'autre côté on travaille beaucoup sur la notoriété en fait de l'entreprise, mais vis-à-vis des clients présents, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, n'ayant pas de commerciaux en fait dans la structure, que la seule façon de rentrer dans toutes les boîtes, ben en fait c'est la cooptation par les
c'est
clients
qui sont visite en fait.
Voilà. C'est la carte de visite. Mais par contre, à un moment, c'est vrai, c'est poser la question comment faire dans les périodes, on va dire entre guillemets, de crise, ou en tout cas de baisse de chiffre d'affaires, pour continuer à maintenir une telle structure avec la charge de 4 ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, on n'a pas cédé à la facilité qui aurait été en fait de répondre à des projets sur des solutions propriétaires, parce que ça, c'est vrai que c'est tentant, hein, quand on arrive sur un mois où il y a très peu de demandes, on reçoit des demandes sur du Microsoft qu'on sait faire, mais qu'on ne veut pas faire, donc on a refusé. Et donc on a développé une activité d'hébergement à forte qualité de service, où là en fait on apporte notre expertise dans tout ce qui est haute disponibilité, clustering, etc. En fait en gros, c'était les missions de conseil et d'audit derrière, on faisait des préconisations et certains clients nous ont dit, bon, bah, ok, c'est bien beau tout ça, mais on souhaite que vous nous accompagniez dans la mise en place, dans l'hébergement de ces solutions de production. Et donc, on est passé là-dessus. Et cette partie, en fait, hébergement qui doit représenter à peu près 30 à 40% du chiffre d'affaires, nous permet en fait de passer, on va dire plus ou moins tranquillement, toutes les périodes de vache maigre en termes de nouvelles demandes, parce qu'on a un récurrent, on a un contact continu avec les clients qui fait qu'on est toujours au courant de tous les projets et on est en pole position pour intervenir et devancer la concurrence à ce niveau-là. Et ça nous permet, en tout cas là, c'est marrant que je sois invité aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 7 ans de Siloé. Ouais. Voilà, bon, et donc ça nous permet, voilà, depuis 7 ans, de continuer d'exister en maintenant le cap 100% libre et avec une activité continue.
Et vos clients, donc vous dites que vous n'avez pas de commerciaux, vous n'avez que des ingés. Vos clients viennent vous voir parce qu'ils connaissent d'autres clients qui font appel à vous et qui disent va voir Siloé, ils savent répondre sans doute à tes besoins. Et donc ce serait intéressant que tu ailles les voir et voir ce qu'ils peuvent faire pour toi.
Voilà, en fait, une bonne partie des on va dire ce qu'on appelle les appels entrants, c'est des contacts de clients. Les clients étant satisfaits, tellement satisfaits par cette qualité de pousser, on va dire, à l'extrême et du suivi de tous les projets, qu'en fait, ils parlent spontanément de nous à leur contact. Et donc, du coup, on reçoit des appels. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on reçoit directement des appels très qualifiés. C'est-à-dire qu'en général, c'est les directeurs techniques qui appellent, qui disent « Voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. Je sais que vous faites ça. Je veux un devis. » Donc, pour nous, c'est tout bonheur. De toute façon, voilà, on n'est que des techniques. Donc, on répond à la problématique technique et on apporte des solutions. Après, on a eu aussi quand même, depuis un an et deux, pas mal de demandes qui viennent d'Internet. C'est-à-dire qu'on a essayé un peu de clarifier sur notre site web tout ce qu'on fait dans le détail, en l'expliquant. Et ce qui nous a amené des contacts, en fait, d'administrateurs système qui sont dans des structures beaucoup plus importantes, 100, 200 personnes, qui sont donc chargées d'animer tout l'aspect système de production interne et externe, qui se trouvent face à des problématiques de blocage. Et donc là, ils cherchent une sorte d'intervention pompier, ce que nous, on appelait les interventions pompiers. C'est au secours, il y a le feu, on a des problèmes, aidez-nous. Et pareil, c'est des contacts directement qualifiés, donc de technique à technique. Voilà, on a ce besoin, on a cette problématique, on a le libre, on n'a pas l'expertise pour... Aidez-nous à avancer une nouvelle étape. Et dans ce cas, on s'est fait un peu connaître à ce niveau-là aussi.
Et le panel de vos clients, c'est collectivité, entreprise privée,
On a une bonne partie des clients, c'est plutôt des grands consommateurs de technicité informatique, donc des éditeurs de logiciels. En fait, c'est assez marrant parce que moi, à l'époque, en 2004, quand je commençais à faire le business plan de Siloé, je n'imaginais jamais contacter des éditeurs de logiciels parce que, un, la plupart font du propriétaire. Deux, ils sont assez nombreux, je me dis, pour avoir leur administrateur système et donc tout ce qui s'ensuit, les formations qu'il faut, etc. Et bah, bizarrement, en fait, c'est des sociétés qui sont très demandeuses en technicité, en expertise, sur du libre. Alors le libre, c'est pas forcément par choix philosophique ou éthique ou autre, c'est au départ par choix financier, parce que le rapport qualité-prix est assez hallucinant. On a des produits, en tout cas dans la production, côté serveur, on bosse uniquement sur les serveurs, le rapport qualité-prix, c'est vrai, est assez hallucinant. Et donc ils s'y mettent, mais ils s'y mettent en fait en considérant que voilà, comme c'est gratuit, bah, on trouvera toujours une solution. Mais à un moment, quand on arrive à la réalité de la production, de la charge, de la sécurité, bah, là, ils se rendent compte qu'ils sont un peu démunis. Et il y a tout un travail, on va dire, d'accompagnement un peu psychologique à faire pour leur dire, OK, même si c'est du libre, bah, ça demande aussi une expertise, ça demande aussi des normes de fonctionnement, ça demande des processus à respecter. Et petit à petit, en fait, ils arrivent donc à cette logique et donc à demander des prestations de services pour être assistés par des experts qui ont l'expérience, la pratique pour les emmener là-dessus. Donc, il y a un gros panel en fait, d'éditeurs de logiciels. Après, il y a aussi les collectivités, des comités de communes, des grosses institutions publiques auxquelles nous, on arrive à accéder, petites structures, via des éditeurs de logiciels en fait intermédiaires. Je prends le cas, par exemple, de la SNCF, auquel on travaille avec eux, mais via trois sociétés différentes, qui sont des éditeurs qui installent des solutions. Mais sur la partie infra, ponctuellement, ils ont besoin d'expertise. Hop, ils font appel à nous. Et on a aussi quelques organismes publics, des universités, des hôpitaux. Et dernièrement, en fait, on a signé un gros contrat avec une agence nationale africaine du Gabon qui chapeaute en fait toute l'informatique des ministères et qui ont une forte volonté d'aller dans le libre. Et en fait, on a été plus ou moins repérés dans des salons, on faisait des conférences sur certaines solutions. Et donc aujourd'hui, voilà, on va installer toute la messagerie de tous les ministères du Gabon. Et voilà, par ce lien, ce bouche à oreille et vraiment cette, on va dire, une petite notoriété technique où on essaye d'être visible quand on peut à ce niveau-là.
Et dans les sociétés, vous remarquez une certaine migration entre des outils propriétaires sur des plateformes Microsoft ou autres, par exemple de l'Exchange pour du courrier, par exemple, vers d'autres plateformes beaucoup plus libres, mais dont évidemment l'intégration des fois est peut-être un petit peu plus ardue, où les gens ne connaissent moins le domaine, donc évidemment font appel à vous. Mais cette migration-là, ils la choisissent volontairement pour des raisons économiques ou parce que c'est l'air du temps ?
Alors, pour la migration, on va dire, bon, pour les serveurs de production, il y a deux catégories. Il y a ce que nous, on appelle les serveurs invisibles à l'entreprise, c'est-à-dire que tout ce qui est web, les serveurs web, intranet, sécurité, etc., où ça n'a aucun impact visuel ou comportemental, aucune différence de fonctionnement avant-après. Ça, pour ce type de migration, on arrive à passer facilement parce que l'argument coût et l'argument qualité de service et l'argument surtout, ouverture des possibilités, fait tilt dans l'oreille des directeurs techniques et des directeurs financiers. Dernièrement, je sais que sur un projet, le fait de dire que voilà, on va installer un système libre là-dessus, mais après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, rajouter d'autres modules, il n'y a pas de limitation en termes de ce que le fabricant ou l'éditeur a prévu dans son boîtier, donc tout est open. Donc ça permet de passer rapidement. Par contre, l'autre catégorie, c'est tout ce qui va induire des modifications, soit visuelles sur le poste de travail, soit dans les comportements type la messagerie et les solutions de travail collaboratif, agenda partagé, contact, etc. Là, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en général, je prends les boîtes où il y a un admin système. Eux, ils ont déjà une première fois essayé de migrer vers le libre pour réduire les coûts, parce que lorsque le renouvellement d'Exchange arrive et que la boîte a 100 personnes, ils se retrouvent à une facture de plusieurs trentaines ou quarantaines de milliers d'euros. Donc là, ils se disent qu'est-ce qu'on a à côté. Et aujourd'hui, on trouve facilement dans ces entreprises-là un admin 6 qui a touché à Linux, qui dit « Ah ben moi, je sais, on sait mettre en place ce type de solution. » Donc, ils mettent en place ce type de solution. En général, ils la testent en grandeur nature. Ça ne se passe pas forcément bien dans certains cas. Du coup, on associe le dysfonctionnement à la solution. On dit « Ah ben c'est Open Exchange ou c'est Postfix, on va dire, qui ne marche pas. » Et donc, on ne veut plus en parler. Et donc, moi, il m'est arrivé des fois dans des discussions avec des éditeurs d'entendre « Oui, la messagerie Postfix, LDAP, combinée à courrier, etc. ne marche pas. » Je suis assez étonné, vu le nombre de serveurs, vu la communauté qu'il y a derrière. Donc, en essayant de défricher le terrain, c'est là où on se rend compte que, suite à des premières mauvaises expériences, toute la solution, on va dire l'open source Linux, etc., est catalogué comme étant ne fonctionnant pas. Donc voilà, il faut se battre un peu contre ces préjugés, montrer en fait patte blanche que bah non, c'est des problèmes de conf qu'on peut avoir mieux, etc. Et après, là où ça change aussi, c'est au niveau visuel. Dès lors qu'on va introduire une solution, on va dire purement libre, GPL, qui ne va pas utiliser Outlook parce qu'elle ne pourra pas synchroniser tout ce qui est calendrier partagé, etc., avec des limitations. Donc là, bon, on a en face de nous le phénomène du rejet du changement. S'il n'y a pas une volonté forte au-dessus, ça ne passe pas. Nous, on a arrêté en tout cas de lutter parce que ce n'est pas notre objectif. Et donc, entre les deux, en fait, il y a des solutions hybrides. Par exemple, Zimbra, qui a une partie full GPL. Donc quand la société en fait, veut s'affranchir de tout ce qui est Outlook, ou équivalent et donc veut que des solutions libres. Donc là, elle arrive à avoir exactement les mêmes fonctionnalités, mais avec un visuel différent. Donc il faut des formations, de l'accompagnement, etc. Ou bien quand il y a une volonté d'aller vers le libre pour des raisons de coût et de garder quand même les vieux réflexes de l'outlook pour la direction, pour les commerciaux qui, eux, veulent surtout pas entendre parler. Donc on introduit ce type de solution. Il y a un petit bout de licence à payer. Les licences, par exemple, pour Zebra, c'est ce qui reverse en partie aussi à Microsoft et à Mac pour les connecteurs en fait, de synchronisation. Donc avec ces solutions où il y a tout le système fonctionne avec des outils libres, mais qu'on garde au niveau poste de travail des outils propriétaires, là, on arrive à passer. Mais ce n'est pas du full libre, on va dire. C'est une première étape pour essayer de déconnecter les utilisateurs ou les décideurs de leur modèle classique où ils se sentent tranquilles, protégés, parce que voilà, il y a une entreprise derrière, ils s'imaginent plein de choses et au jour le jour, on se rend compte, quand on analyse les arguments, que ça ne tient pas la route. Mais voilà, ils se sentent tranquilles, donc là-dessus, il y a des solutions intermédiaires. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de toucher au poste de travail, en tout cas nous, de notre expérience. Et c'est pour ça que, on va dire, 90% de nos prestations ne concernent que les aspects serveurs purs, parce que pour nous, c'est plus simple en fait, d'avancer là-dessus.
Et Siloé, pour les 7 ans à venir, parce qu'on était à 7, donc... Comment tu vois ça? Plus de collaborateurs peut-être pour répondre à plus de demandes qui arrivent ou non ou...
Bah, c'est des interrogations, je dirais, hebdomadaires que j'ai seul avec mes collègues ou avec certains clients qui sont aussi des partenaires dans les réflexions stratégiques là-dessus parce qu'on s'occupe, on va dire, de leur plateforme, donc on est stratégique pour eux. Voilà, il y a un échange mutuel là-dessus. Moi, j'ai pas de ligne fixée, de trajectoire fixée. Voilà ce que je vais faire, etc. Pour moi, le principal objectif, c'est de stabiliser le dernier recrutement qu'il y a eu en novembre, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de charges, de trésorerie, de prévisionnel, qu'il n'y ait pas besoin, en fait, de se mettre dans le rouge à un instant T. Donc déjà, de stabiliser cette nouvelle charge, de travailler un peu plus sur notoriété. Et après, je pense que on se laissait porter un peu avec une rigueur financière d'être tout le temps à l'équilibre, d'avoir ce... Parce qu'en fait, je dis ça, j'ai entendu dernièrement qu'il y a une société qui faisait un peu du libre aussi à Montpellier qui a dû fermer, parce que bon, ça n'a pas marché, mais disons, ça c'est un truc propre aux sociétés de services en vie libre, c'est que la rigueur financière, le tableau de bord, on va dire, entrée-sortie, est un peu mis à l'écart. Parce que voilà, c'est vrai, on est tous passionnés, on veut tous faire du libre, on veut tous apprendre des nouvelles technos, et on oublie un peu le côté rationnel du fonctionnement d'entreprise. Il y a des charges à payer, il y a l'État qui vient, qui prend. Voilà, même s'il n'y a pas d'investisseur, on a l'avantage qu'il n'y ait pas d'investisseur ni de groupe, mais il y a une réalité, c'est que pour moi, j'estime que mon autre associé, c'est l'État, vu tout ce qu'il prend par an. Et donc voilà, l'idée c'est de renforcer la stabilité financière de Siloé. Petit à petit, si le volume en fait des demandes augmente, de recruter une nouvelle personne, peut-être une personne par an, comme on essaye de faire, voilà. Et surtout d'être dans une bonne ambiance, que tout le monde soit content de faire du libre et de venir à Siloé tous les jours.
Bien. Je te remercie, Tim. Pour plus d'infos, siloé.fr, siloe.fr. Les liens, évidemment, sur l'émission divergence-fm.org, rubrique Divergence numérique.
Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terrorist States.